Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'histoire de Marina Alrubaï, tirée de son livre qui paraît aux éditions Mazarine, Il était une voix. Marina, qui sera là tout à l'heure, a grandi avec deux parents sourds. Sa langue maternelle est le langage des signes. Le français parlé, elle ne l'a appris qu'à l'école. J'ai écrit cette histoire avec Gérald Massé, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Mes parents n'entendent pas, mais ils ont de la voix, hein.
Suzanne ! Tarek !
Je n'ai jamais compris pourquoi ils font ça, puisqu'ils n'entendent pas. Quand je suis là, j'accours pour les prévenir, en signe. Papa, maman t'appellent. Ils ont aussi inventé des astuces pour attirer l'attention. Ils font clignoter la lumière. Et moi, je fais pareil. Je me hisse sur la pointe des pieds et clic, clac, clic, clac. Je ne vais pas aussi vite qu'eux, mais c'est notre façon à nous de dire « Coucou, je suis là ». Du coup, on vit dans une valse de lumière clignotante. Il y a aussi une ampoule rouge dans le couloir, près de la porte d'entrée, qui clignote en plus du drink quand quelqu'un sonne. Mes parents me demandent en langue des signes « C'est qui ?» Je leur réponds « Je sais pas ». Alors ils collent leur index sur la bouche. Chut. Je retiens ma respiration. Un œil se colle au Judas. On ne connaît pas, on n'ouvre pas. On attend. Ils me demandent « Personne de l'autre côté ?» Je tends l'oreille, je fais « Non » de la tête. Et là, nos corps se détendent. Je peux reprendre mon souffle. Parfois, ils ouvrent la porte quand ce sont des amis sourds comme eux. Ils se donnent des accolades, souvent bruyantes. Ils m'embrassent, ils me pincent la joue. Dans la salle à manger, je me mets dans un coin. Je fais semblant de jouer en les observant. Je vois leurs mains qui virevoltent, qui dansent dans l'air, vives, agiles. Ils rient, ils font des grimaces. J'essaye de comprendre, mais je m'essouffle à suivre leur cadence. J'en ai le tournis. Et quand ils sont partis, ma mère me dit en signe pour la énième fois. Il faut pas avoir peur de t'exprimer. En plus, t'entends. Je réponds oui pour lui faire plaisir. Mais je ne comprends pas ce qu'elle attend de moi. Tu entends? Oui, j'entends. Les bruits, les sons, pas comme eux. Mais ça sert à quoi de parler avec des mots alors que je parle déjà avec mes mains? J'ai 3 ans et je sais qu'il existe un monde parallèle. Le monde des gens qui parlent souvent fort. Et ce monde m'effraie. Trop bruyant. Ces gens, je les vois surtout quand on va faire des courses dans le grand magasin. La musique est trop forte. Je me bouche les oreilles. Je me ferme les yeux. Et là, mon père me tape sur l'épaule. Pourquoi tu fais ça? C'est pas joli? Je me sens incapable de lui expliquer le vacarme et tout le reste. Mais quand je rentre à la maison, je fonce dans ma chambre, je colle mon petit lapin bleu contre moi, je monte sur mon lit avec son dessus de lit qui me gratte, le bruit de mes oreilles s'atténue, les gens qui parlent trop fort n'existent plus, et je sombre dans le sommeil. Chut. Mais à 3 ans, j'ai beau les écarter, les parlants font de plus en plus de bruit. Ils envahissent mon espace. Des parlants, mes parents en reçoivent de plus en plus. Ils veulent qu'on les appelle tonton ou tata. J'arrive à les identifier par leur prénom, mais je refuse de les prononcer. Ma mère me signe. Mais parle, toi qui entends et pas moi. Tu entends. Je fais non de la tête et je cours m'enfermer dans ma chambre. À cette époque, un bébé se glisse dans notre vie. Je n'ai rien compris. Il était dans son ventre, et puis un jour, il est dans ses bras. Bon, mon père et ma mère me le présentent avec leur voix.
Franck ! Franck !
Qu'est-ce qu'il crie, Franck ? Je vais tout de suite prévenir maman. Franck pleure. Elle me répond. Laisse-le, il va s'arrêter. Mais ses pleurs me font mal aux oreilles. Ma mère n'est pas souvent tranquille en ce qui concerne Franck. Elle va souvent vérifier qu'il respire toujours, surtout la nuit. Elle se penche au-dessus de son lit. Elle pose sa main sur sa poitrine. Et là, je vois sa figure qui se détend. Ma mère me dit « Bientôt, il faudra aller à l'école. » Et elle ajoute « Tu seras avec d'autres enfants qui entendent comme toi, c'est bien. » Je ne sais pas pourquoi elle insiste comme ça sur le fait que j'entende. Ça semble si important pour elle. Quand je rentre à l'école maternelle, je me rends compte que tout le monde parle. Sauf moi. Je ne veux pas. Le monde devient tout d'un coup trop grand. Et donc je me renferme sur moi-même. Et maintenant, je dois avoir 5 ans. C'est ma dernière année à l'école des tout-petits. C'est la récréation. Les enfants jouent autour de moi. Moi, je suis assise contre un mur. Je ne veux pas me mêler à eux. Je ne sais pas parler comme eux. Et de là où je suis, je vois la fenêtre de notre appartement au 5e étage. Alors j'attends, parfois c'est long, et maman apparaît. Elle vient me faire des grands signes de la main à chaque récréation. Et moi, je secoue la mienne du plus fort que je peux. Je cours vers la grille blanche et je lui fais signe. « Coucou maman, coucou, viens me chercher, viens !» Et elle me répond en amplifiant les gestes pour que je la voie. « Ne reste pas seule, joue avec les enfants !» Je secoue la tête, mais elle insiste. « S'il te plaît, vas-y !» Elle m'envoie un dernier baiser. Elle ferme la fenêtre. Mes lèvres tremblent. Je sens les larmes m'envahir. Je me retourne. Il n'y a plus personne dans la cour. À la maison, beaucoup de choses ont changé. Franck a grandi, maintenant je peux jouer avec lui. On se chamaille, on s'amuse bien. Il commence même à utiliser les signes. Et je vois le ventre de ma mère s'arrondir à nouveau. Un nouveau bébé va arriver. Une petite sœur, Nadia. J'ai 6 ans maintenant. Et je viens de rentrer en CP. La maîtresse vient vers moi. Elle me dévisage longuement. « Tu sais écrire ton prénom ?» Je ne réponds rien. J'ai peur de parler, de mal parler. « Tu le sais ou pas ?» Et là, la peur grandit en moi. Je reste muette. Tu devrais pourtant. Et là, au tableau, elle attrape une craie. Ça s'écrit comme ça, hein? Tu sais ou pas? Eh ben, dis donc. Elle pose la craie. Elle secoue ses mains pleines de poussière blanche et... Elle m'a déjà oublié. Et moi, je reste pétrifié avec une boule dans la gorge. Mais je ne veux pas pleurer. À la maison, on communique par signes. Mais on n'écrit jamais. Je comprendrai plus tard que c'est compliqué d'écrire pour les sourds. La langue des signes a sa propre grammaire qui n'a rien à voir avec celle de l'écrit. Écrire pour un sourd, c'est comme accéder à une autre langue. Et donc je dois apprendre une nouvelle langue. J'ai tout à apprendre. Mais bon, tous les jours, je fais des progrès.
Marina, à toi de lire.
Je redoute ce moment. D'un coup, ma nuque se raidit, mon cœur bat vite.
À toi de lire, Marina, on t'attend.
Ma gorge se serre. Le livre est devant moi, mais je ne sais pas ce que je dois lire.
C'est ici. Allez, lis.
Et là, j'arrive à lire, oui. Mais dans ma tête, aucun son ne sort de ma bouche, aucun. Je regarde la maîtresse. Oh, j'aime pas son regard.
Bon.
Pourtant, à la maison, je m'entraîne. Je parle à voix haute, toute seule dans ma chambre. La voix hésite, elle est faible, mais j'y arrive. Mais jamais devant les autres. Le soir, maman veille à ce que je fasse mes devoirs. Et quand je lui montre des exercices écrits dans les livres, elle fronce les sourcils. Et elle m'explique en langue des signes. Je sais pas, je ne peux pas t'aider. C'est compliqué pour elle aussi, les mots, le sens. Alors elle me rend le livre, et je vois bien que ça la chiffonne. Et puis, puis la catastrophe arrive. Mes parents ont appris que je ne parlais pas et que je ne lisais pas à voix haute devant la maîtresse. Alors ils m'envoient voir un spécialiste de l'oreille. Moi, je ne vois pas le rapport. Et je me retrouve donc dans une petite cabine, avec un casque sur les oreilles. J'entends les sons, un coup aigu, un coup grave. Le docteur m'a dit d'appuyer sur un bouton. Mais moi, je ne veux pas. Je n'y arrive pas. Après, elle veut me faire parler, dire un son, juste un seul. Elle fait défiler des images. Dis-moi le mot qui correspond à cette image, Marina. Je reste muette. Maman me regarde de plus en plus inquiète. Et là, elle pose sa main sur mon bras. Elle le serre très fort et elle signe. Parle, s'il te plaît. Je lis tellement de tristesse dans ses yeux. Je ne veux pas les rendre tristes. C'est un dessin d'un engin immense qui s'élance vers le ciel. Alors je dis...
Grue ?
Oui, c'est ça, c'est une grue. Je vois le visage de mes parents se détendre. Ils m'ont vu remuer les lèvres. C'est bien, me signe maman. Moi, j'ai juste envie de pleurer. La sensation, en parlant, de les trahir, de passer dans le camp adverse, celui des entendants. Et la langue des signes dans tout ça, hein? Tout ce qu'ils m'ont transmis, tout ce qu'ils m'ont appris, on en fera quoi? Ça comptera, ça? Si je me mets à parler, je vais les perdre. Mais j'ai décidé de me mettre à parler pour eux. Mais il faut corriger mon élocution. Je parle mal. Alors on m'envoie chez une orthophoniste 3 fois par semaine. Mais à l'école, ça n'est pas encore ça. J'écorche les mots, je les abîme. Par exemple, pour dire chaise. Une caisse? Comme mes parents quand ils parlent. Ils déforment les mots. Et moi, je dois les apprivoiser. Là-dessus, le téléphone arrive à la maison. Comme dit mon père, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. On l'installe dans la salle à manger, sur l'étagère, derrière la porte. Je n'aurais jamais pu imaginer, du haut de mes 6 ans, que ce téléphone allait conditionner le reste de ma vie. Mon père, Tarek, est d'origine irakienne. Il est tailleur, c'est-à-dire qu'il fait des vêtements. Il travaille pour un Yougoslave. Et un jour, je l'entends dire à ma mère dans la cuisine, « Mon patron ne m'a pas payé. » « Il exagère, dit ma mère. Il profite que tu sois sourd. Il faudrait l'appeler. Mais qui ? Les voisins ? La famille ? Ah non, trop gênant. Et moi, je leur dis, « Moi, je peux appeler. » Comme on dit chez les entendants, je les ai scotchés. Je les sens confus, mal à l'aise. On verra. On va réfléchir. Quelques jours plus tard, maman me lance. Tu peux ? Tu es sûr ? Papa sort une feuille de papier, il me griffonne le numéro. Et là d'un coup, je sens mon cœur battre très fort. J'avale ma salive de travers. Je sais pas trop là. Je m'approche du téléphone. Je décroche.
Allô ?
Sa voix m'impressionne. Elle me coupe le sifflet.
Allô ?
Oui. Oui, allô ?
C'est qui ?
Oui, voilà, je voulais, c'est pour papa.
Tu es la fille de Tarek ?
Oui. J'ai peur de parler. Je me corrige comme j'ai appris chez l'orthophoniste, mais je bafouille. Et il veut savoir pour quand il va toucher l'argent.
Dis-lui demain, d'accord ?
Je suis essoufflé, comme si j'avais couru un sprint. Mon père lève le pouce, il m'embrasse très fort. Je suis fier. C'est comme si j'avais grandi d'un coup, comme si j'avais pris de l'importance. J'ai trouvé le moyen de faire entendre leur voix à travers la mienne. Le lendemain, papa revient à la maison avec le chèque. Et c'est comme ça que je deviens petit à petit l'interprète de mes parents. Chez le médecin, par exemple, c'est pas toujours facile, hein. Marina,
Demande à ta mère si elle a des difficultés à aller à la selle.
Selle ? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est une selle de cheval.
Vous pouvez répéter ? J'ai pas compris.
Ha ! À la selle, c'est l'envie ou pas de faire caca aux toilettes. Demande-lui si elle y arrive. J'aimerais tant avoir un dictionnaire pour comprendre les médecins. Ils ont du mal à se mettre à mon niveau. C'est aussi moi qui gère la paperasse administrative. En général, c'est ma mère qui ouvre les enveloppes, elle déplie la lettre, elle la lit, et là je vois son visage qui se décompose. Je ne comprends rien du tout. Alors je contacte l'administration par téléphone.
Bonjour, j'appelle pour mes parents qui sont sourds. Nous avons reçu un papier, on ne comprend pas très bien, vous pouvez nous renseigner ?
Mais quel âge as-tu ?
J'ai 8 ans et demi.
Dis, maman, comment tu faisais avant moi pour te débrouiller ? J'allais sur place pour prendre rendez-vous. J'y passais mes journées parfois. Mes parents ont aussi du mal à écrire. Alors ils ont acheté un livre, un guide, 200 modèles de lettres. Avec, je me mets à écrire des centaines de lettres qui se terminent par « mes salutations distinguées » ou « mes sentiments les plus respectueux ». Maman recopie mon brouillon et elle me le fait relire.
« C'est bien ?»
Je confirme avec un sourire. Je m'arrache à la réalité grâce à la télévision. Le mardi soir surtout, la dernière séance d'Eddie Mitchell.
Amis de la dernière séance, bonsoir. À votre programme ce soir, deux westerns.
Maman me signe. Il existait quand j'étais toute jeune. J'étais amoureuse de lui. Il est très beau. Mais elle ne l'a jamais entendu. Mais elle aime sa façon de bouger, sa manière de s'habiller, sa coiffure banane. Et moi j'aime sa voix, grave et rassurante. Et à chaque fois qu'on regarde la télé, ma mère me dit « Ça va ? C'est pas trop fort la télé ? Il faut pas déranger les voisins ? Ils vont pas être contents ?» J'ai un rapport très particulier à la langue française. Je la vis comme une langue étrangère. Ma vraie langue maternelle, c'est la langue des signes. Trouver le mot juste, exprimer la précision de ma pensée, c'est un exercice épuisant. J'ai 9 ans maintenant. J'ai fait beaucoup de progrès. Mais j'ai la sensation de ne pas en avoir fait assez. Pour mes parents, comme pour moi. Avant de parler, par exemple, je continue de me représenter les mots mentalement. Fourchette, je vois une fourchette. Pain, je vois un pain. Arbre, je vois un arbre. C'est plus compliqué quand ce sont des concepts. Amour, par exemple. Et ben là, je m'imagine dans les bras de mes parents. Et pour espoir, je m'imagine dans l'attente de déguster une glace à la vanille. Mais quand c'est des mots comme constitution, par exemple, et ben là, mon cerveau bloque. À 9 ans, je me mets à traduire à mes parents le journal télévisé. À l'époque, il n'y a pas de sous-titres. Du coup, mes parents font un va-et-vient entre la télé et moi, comme s'ils assistaient à un match de tennis. Il dit quoi ?
6 erreurs pour une catastrophe. Moscou révèle comment s'est produit l'accident de Tchernobyl. C'est une expérience qui a mal tourné.
Il dit que les particules se sont arrêtées aux frontières françaises. C'est un menteur. Les particules n'ont pas besoin de passeport pour entrer sur notre territoire. Je suis fier d'être l'interface qui les relie au reste du monde. L'autre jour, une voiture est rentrée dans celle de mon père. L'homme sort de la voiture, furieux, en costard-cravate, petite lunette ronde.
Et enfoiré, ben ! Ça va, connard ?
Mon père est sourd, monsieur.
Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des sourds ? Ça devrait pas conduire, un sourd !
Il faut faire un constat. Et c'est moi qui remplis la partie qui nous concerne, parce que papa sait reconnaître les lettres, mais il ne comprend pas les mots.
Il faut qu'il signe, de son nom.
Mon père regarde le papier, et là son visage se ferme. Et il fait signe, ça va pas la tête. Il me dit, Je suis sourd, mais je suis pas bête. » Et il me montre le dessin sur le constat. L'homme veut nous faire porter la responsabilité.
« Non, il signera pas. »«
Comment ça, il veut pas signer ?»«
Mais si, il va signer. »«
Non, il faut refaire le dessin.
Sinon, il signe pas. »
Mon père me fait signe. « Laisse tomber, on s'en va. On ira ensemble chez l'assureur demain pour lui expliquer. » Et là, l'autre se met à hurler.
« Je suis médecin, hein ? Si j'en avais le pouvoir, ben j'interdirais aux sourds de conduire. Ce sont des handicapés. Les handicapés conduisent pas. Vous m'entendez ? J'interdirais tout. »
Et là, mon père le gratifie d'un joli bras d'honneur, un signe international compris de tous. J'ai 10 ans maintenant. Et souvent, ma mère m'envoie chez sa sœur, Mietka, pour le week-end, les petites vacances, pour m'habituer à m'entourer d'entendants. Et Mietka me dit
« Alors, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?»
Et là, je pense au formulaire que je remplis pour ma mère, à tous ces brouillons de lettres.
« Je veux être secrétaire. »
Ça me semble dans la logique des choses. Elle fait une petite moue.
« Oui, c'est bien. Tous les métiers ont leur utilité. » Mais tu n'as pas pensé à autre chose? Par exemple, et si tu devenais journaliste? Pourquoi journaliste? Eh bien, pour raconter le monde. Pour faire entendre la voix des autres.
Et après, plus les jours passent et plus j'y pense. Faire entendre la voix des autres. Eh bien, ça y est. J'ai 18 ans, j'ai eu mon bac et je viens d'intégrer une école de journalisme. Et maintenant, c'est mon frère et ma sœur qui ont pris le relais auprès de mes parents pour les traductions, pour les dossiers administratifs. Je me retire, je leur laisse la place. Et à partir de là, rien ne se passe comme prévu. Quelque chose en moi part en vrille. Un mal-être qui grandit chaque jour jusqu'à envahir mon existence. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Tout me touche. Tout me fait pleurer. Et un matin de novembre, je craque. Je n'arrive pas à me lever de mon lit. Mes parents s'en aperçoivent, ils sont inquiets. « Ne fais pas de bêtises !» me dit ma mère. Je vais voir un psychiatre. Il m'écoute à peine.
« Vous faites une dépression, hein ? Je vais vous prescrire des antidépresseurs, des médicaments. »
Je déchire son ordonnance en sortant. Hors de question de prendre des médicaments. Ça a duré 2 ans, comme ça. Et j'ai découvert en moi une fragilité, une tristesse, à force d'avoir été occupé à faire entendre la voix de mes parents. Eh bien, je suis devenu sourde à ma propre voix, à mes besoins, à mes ressentis. Alors j'ai touché le fond du puits, j'ai donné un bon coup de pied, et petit à petit, je suis remonté à la surface. Une psychologue a fini par me donner la clé.
Vous savez, Marina, vous avez été en hypervigilance, hein, tout le temps, sans vous laisser de répit. Vous aviez toujours des problèmes à anticiper, à régler. Vous avez porté sur vos épaules trop de pression, hein, trop d'obligations. Combattre sans jamais rien lâcher, c'est épuisant, hein, c'est usant. Et à un moment donné, ben, votre corps a lâché et il a dit stop.
Elle a raison. J'ai toujours eu peur de décevoir, toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé si je ne passais pas à l'action. J'ai dû être forte en toutes circonstances. Absurde croyance. Voilà le récit que j'ai réussi à tracer dans ce livre qui est beaucoup plus complet que ça, qui raconte beaucoup d'autres anecdotes sur votre enfance et sur votre vie, Marina Al-Rubaei. Le livre dont je rappelle le titre, il était une voix aux éditions Mazarine. Je me demandais si c'était encore un défi pour vous que de parler à la radio.
C'est un défi, oui.
C'est-à-dire que là, vous avez un peu la gorge qui se noue, enfin tout ce que vous décrivez, oui, il reste des traces.
Il reste des traces de l'enfance, oui. Ouais. De peur de mal parler encore, de ne pas pouvoir bien m'exprimer. C'est essayer de me dépasser à chaque fois, oui, c'est pas naturel. Hein.
Vous avez aujourd'hui plus de 40 ans.
42.
42 ans, si vous dites vous-même. Et il reste encore des traces de ça. C'est-à-dire, évidemment, on dit que ce sont les premières années qui déterminent une vie, donc il est normal que ces lacunes des premières années vous coûtent encore aujourd'hui.
Oui, qui reste aussi. J'ai des expressions un peu bizarres comme mettre la cerise sur le gâteau, ou c'est plutôt l'inverse, mettre le gâteau sur la cerise. Alors imaginez l'état de la cerise.
Encore, ça.
Oui, souvent.
C'est ça, c'est typique de ce dont vous souffrez en vérité. C'est une sorte de dyslexie.
C'est une sorte de dyslexie que on a détecté bien plus tard, mais c'est vrai que sur le moment, en fait, ça vient avec le temps. Je vois que j'inverse les mots, et que c'est une sorte de dyslexie qu'on a détecté, oui.
Finalement, vous êtes devenu journaliste, hein, après cette école de journaliste. Vous travaillez dans quel secteur ? Pas la radio.
Non, l'écrit. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus confortable pour moi pour l'écrit. Ouais. Ça me permet vraiment de traduire au plus juste ce que je vois et j'entends.
Ouais.
Et pour moi, c'est une façon aussi de m'approprier aussi la langue, de continuer à m'approprier, parce que ça reste le français une langue étrangère.
Ça reste une langue étrangère.
Exactement.
Vous le vivez toujours comme
toujours.
Ça. Cette dépression est derrière vous, ou vous garderez toute votre vie le traumatisme de ce que vous avez vécu.
C'est un traumatisme. En fait, c'est un grand mot, le traumatisme, quand même. Oui.
En le disant, je me suis dit, c'est peut-être trop, mais je vous laissais mettre le bémol.
Non, c'est pas le traumatisme, mais en fait, en tout cas, une certaine fragilité, oui. Une certaine fragilité, en fait, par rapport à la condition humaine, savoir que tout est ténu. Parfois, je suis très, très vigilante par rapport à ça. Et quand je sens qu'il y a l'émotion qui me submerge, je reste. J'essaie de rééquilibrer. Et ça m'arrive aussi de vouloir mettre des mots et je le continue. Ça m'arrive d'aller voir un spécialiste
pour remettre de l'ordre.
Pour remettre de l'ordre. Quand ouais. Je sens que ça part un petit peu en vrille. Hein,
et orthophoniste, toujours?
Non, pas orthophoniste, un psy.
Un psy, ouais.
Carrément.
Et ça vous aide à remettre les
oui,
choses
de mettre des mots sur un vécu qui m'a conditionné, qui m'a construit.
Vous continuez de penser que vous vous exprimez mieux en langue des signes?
C'est beaucoup plus simple.
Alors j'ai noté dans votre livre qu'à aucun moment, pas un seul mot ne reproche quoi que ce soit à vos parents. Et pourtant, ils vous ont contrainte à vivre ça objectivement. Ils étaient tous les deux sourds. D'abord, est-ce qu'il y avait un risque que vous soyez sourde par héritage, vous aussi?
Non, du côté de mes parents, c'est pas génétique du tout. Ils
D'accord.
sont devenus sourds dû à la méningite, en fait.
D'accord, ok. Donc ce sont des maladies qui les ont amenés à être sourds.
Exactement.
Mais en vous faisant, vous, la première, peut-être que le cas de vos frères et sœurs, d'ailleurs, a déconnecté de votre histoire à vous, mais vous êtes la première, ils prennent un risque, objectivement. Mais on sent qu'ils sont, quand votre mère en permanence vous dit « mais toi tu entends, parle », ils sont gênés du risque qu'ils vous font prendre.
C'est très complexe, en fait, quand on est dans cette situation-là. Je veux dire, elle veut que je ne sois pas comme elle, en fait. De dire, mais tu n'es pas privé de l'ouïe, tu peux entendre, vas-y, tu as cette possibilité de t'exprimer. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je sens comme une injonction inconsciente de sa part de me dire, mais vas-y, ouvre-toi aux autres, sois pas timide, tu entends, tu peux t'ouvrir au monde. Moi, je me suis enfermée dans mon monde avec ma surdité.
Mais quand ils ont pris la décision de vous avoir, vous, la première enfant, vous en avez parlé avec eux, ils ont assumé le risque que c'était pendant 3 ans de vous couper du monde de la parole.
Alors, le fait que je sois arrivée, c'était un peu un accident.
Ouais.
Donc, ils ont en fait assumé le fait que j'arrive.
Ouais.
Après, ils ont bricolé.
Après, ils voulaient des enfants. Hein.
Ils ont fait, bien sûr.
Ils en ont eu 3, donc oui. C'est pas 3 accidents.
Non, c'est pas. J'étais la première.
Oui.
Enfin, je dirais un accident, c'est un grand mot
C'est
un enfant
aussi.
Surprise.
On est tous des accidents.
Mais après, c'est le fait qu'il y ait mon frère et ma sœur, bien sûr, il y a eu une envie de fonder vraiment une famille.
Mais vous, bon, voilà. Il y avait un côté un peu roulette russe. Les tatas, c'était pour compenser?
Les tatas, c'était pour compenser, exactement. Ils avaient besoin, en fait, de me permettre de m'ouvrir, vraiment, que je puisse parler, en fait. Que j'entende des sons. Ils avaient conscience de ça, quand même.
Parce que pour vos frères et sœurs, la situation est totalement différente. Parce que eux, ils vous ont vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes là, eux, ils ont quelqu'un à qui parler.
Alors, j'ai ouvert la voie.
Ouais.
J'ai ouvert la voie. Avec mes difficultés, j'ai appris à parler. Et le fait de m'entendre parler, eux, ça les a permis de prendre place dans le monde plus facilement.
Alors, votre déclic pour parler, c'est quand vous vous apercevez que vous pouvez
aider vos parents. C'est ce qui vous a sauvé. Et assez paradoxalement, c'est ce qui vous a, bien plus tard, fait plonger dans la dépression, parce qu'au fond, vous vous êtes accroché à cette fonction d'interprète comme à une fonction vitale, et le jour où ça s'est arrêté, c'est à la fois une chance dans votre vie, et puis ça a été votre poids, quoi, votre sac à dos.
C'était ma chance qui m'a permis, moi, de pouvoir m'exprimer. Mais quand je dis m'exprimer, c'est pas moi m'exprimer, c'est faire entendre mes parents. Faire entendre leur voix, la voix qu'on n'entend pas, que l'extérieur n'entend pas. Dire voilà, quels sont leurs besoins. Donc j'ai pu prendre ma place à cet instant-là, mais c'est pas moi qui a décidé quoi que ce soit. Je n'avais qu'une fonction, c'est-à-dire de pouvoir traduire au mieux leurs besoins.
Est-ce que, à votre avis, vos parents, dans l'idée d'avoir un enfant, il y avait aussi cette idée d'avoir un aidant? C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait, parce que quand on voit les difficultés qu'ils ont, bien que vous soyez là pour leur servir d'interprète, on se dit avant vous, ça devait être terrible. L'impossibilité de communiquer avec les administrations, le non-accès au téléphone, enfin toutes ces choses-là. Quoi.
Ah mais c'est un combat terrible en fait. Et le fait de les voir en grandissant, se démener à leur façon, de ne pas trouver des réponses, c'est fatigant toute la journée en fait, de faire ça tout le temps, de trouver des réponses qu'on n'obtient pas. Donc si moi, avec ma possibilité de pouvoir parler, si je pouvais leur faciliter le quotidien, bah c'était que du bonus, en fait. Et en aucun cas, ils n'ont pensé que je pouvais être leur aidante. En fait, c'est cette situation qui s'est imposée d'elle-même.
Oui, il n'y avait pas de calcul, quoi.
Il n'y avait pas de calcul, bien sûr.
Imaginer.
Non, pas un instant. Ouais. Vraiment.
Mais quand ils mettent le téléphone, par exemple, ils savent bien qu'il y a vous qui pouvez répondre au téléphone ou appeler.
On veut un téléphone parce que les autres ont un téléphone.
Oui.
Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai qu'à ce moment-là où on a le téléphone, on peut. C'est un moyen vraiment de pouvoir communiquer et d'être cette passerelle avec l'extérieur, oui.
Alors, au-delà de votre récit personnel qui est passionnant, qui est une situation à laquelle je n'avais pas pensé, enfin si, parce qu'en vérité, il y a eu un film inspiré de ce complexe-là.
La famille Bélier.
La famille Bélier, ce succès incroyable du cinéma français, c'est votre histoire.
Et oui, mais quand j'ai vu au cinéma, je suis sortie de là, mais j'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré, parce que j'ai enfin quelqu'un qui raconte mon histoire.
Vous êtes Louane.
Je suis Louane, oui.
Ouais. Et c'est ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre en disant, ben, ça n'est pas qu'une fiction, c'est mon histoire.
Oui, exactement.
Hein?
Ça a contribué un petit peu, oui.
C'est le déclic. Alors, en appelant plein de trucs grâce à vous sur ce qu'est la surdité qui, je le confesse, en tant que journaliste de radio, n'est pas un sujet que j'ai beaucoup traité dans ma vie, parce que s'il y a vraiment des gens auxquels je ne parle jamais, ce sont bien les sourds, autant les aveugles sont des auditeurs privilégiés, autant les sourds ne nous sont pas accessibles. Et je voudrais qu'on s'arrête notamment sur cette différence que je n'avais jamais perçue qu'il y a entre la langue des signes et le français écrit et lu. Donc, vous dites en fait, la clé c'est que ça ne se conçoit pas du tout de la même manière, ça n'est pas la même grammaire, on ne met pas les mots dans le même ordre, enfin, les idées dans le même ordre, on ne conjugue pas de la même manière.
Il n'y a pas même du tout la même grammaire, parce que tout s'exprime par le corps, par les mains,
oui.
Et la façon de placer les mains aussi exprime une certaine façon
des situations.
Et par exemple, on me dit « j'ai faim », en vrai, c'est, si on traduit littéralement, c'est « je faim ». C'est en fait, il n'y a pas à traduire en fait. On peut dire, on peut placer le mot hier, avant, j'ai faim ou.
Ça n'est pas la traduction de mots en signes.
Non, du tout.
C'est la traduction de situation.
Exactement.
En signes.
Exactement, pour lui donner un sens.
Ouais. D'où le fait que ça ne vous a pas du tout structuré mentalement pour apprendre à écrire, à lire et à parler.
Non, mais je parlais déjà en signes. Donc le français écrit et le français parlé n'avaient pas du tout les mêmes. La même constitution, en fait.
Ouais. Hein,
c'était, fallait que pour moi, et ça continue à l'être, savoir quel mot placer avant ou après. Parfois, j'ai des hésitations, ça doit s'entendre là maintenant. Mais j'essaye d'être la plus claire possible pour bien m'exprimer. Et c'est vrai que mentalement, il y a une espèce de. Je pense en
images. Et oui, parce que le signe se colle plus à des images qu'à des mots.
Et, oui, on peut dire que c'est lié à des images, en fait. Parce qu'un signe égale un mot égale un signe.
Et alors, ce que vous dites sur vos parents est terrible, parce que au fond, ni votre père ni votre mère. Alors, est-ce que ça tient à l'éducation qu'ils ont reçue en tant que sourds à une autre époque, c'est-à-dire dans les années 60, ou est-ce que c'est aussi ce que vivent les sourds aujourd'hui? Mais votre père n'est pas capable de remplir un constat amiable après un accident,
mais
ni de le lire.
Ni de le lire, en fait, il peut comprendre, hein. Il peut lire un mot mais sans lui donner un sens. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre.
Mais ça tient à son éducation des années 60 ou c'est toujours le cas aujourd'hui pour les sourds?
C'est particulier pour mon père parce qu'il vient d'un pays étranger qui est l'Irak, ouais. Donc il est arrivé en France, ouais. Avec son bagage.
Ouais.
Et donc après la lecture était quelque chose de très difficile, mais c'est le cas aussi en France de sourds qui sont nés en France.
Ouais.
La difficulté d'avoir accès à l'écrit,
ouais.
Il était à l'époque en fait, il l'est beaucoup moins maintenant parce qu'on coupe vraiment la langue des signes avec l'écrit.
Oui, on apprend les deux en même temps.
On apprend les deux en, ouais. En même temps pour lui donner un sens, en fait. Parce qu'on peut tout à fait écrire sur un tableau et que le mot apparaisse, mais on peut dire on a beau le répéter, s'il n'y a pas de sens, le sens arrive avec le son.
Oui, c'est dingue. On apprend plein de choses grâce à vous. Les sourds n'ont pas beaucoup accès à la société. Alors, en plus, on croit que le problème est réglé parce qu'on a mis du télétexte sous les films ou sous le journal télévisé à la télévision, mais en vérité, ça les aide à peine.
Alors, faut savoir qu'il y a tous les sourds ne sont... Il y a à peu près 5 millions de personnes qui sont sourdes en France.
Oui.
Elles sont devenues sourdes. Et on peut dire qu'il y a vraiment 100 000 personnes qui parlent la langue des signes.
Oui. Ah, c'est très peu.
C'est très peu, oui.
Ouais. Donc, les autres sourds lisent sur les lèvres.
Lit sur les lèvres, il y a aussi le LPC, hein, une façon de s'exprimer quand il y a une consonne qui est exprimée sur les lèvres pour savoir quel type de consonne on utilise,
oui.
Et la langue des signes. Lire sur les lèvres, c'est un effort constant aussi, c'est fatigant.
Oui, on le voit, hein, vos parents, ça les fatigue.
Ah mais c'est fatigant, ouais. Même pour n'importe qui. Hein. Ouais. Moi, je vois quelqu'un et je regarde beaucoup les lèvres, moi aussi, c'est comme si j'étais une sourde,
ouais.
Entendante.
Oui, on a compris.
Mais même le fait de voir les lèvres, les voir bouger, il faut les décrypter, cet effort coûte aussi.
Et donc, je reviens à mon histoire de télétexte, parce que pour moi, le grand effort qu'on avait fait, parce que j'ai travaillé à la télévision, on nous disait, on va tout traduire en sous-titres, on va mettre des sous-titres à toutes les émissions, mais si c'est pas une traduction en langage des signes, le sous-titre pour un sourd, c'est une galère.
Et heureusement qu'il y a quand même des sous-titres, hein, je tiens à le préciser, mais quand ma mère, quand on regarde une émission, il y a un sous-titre, et elle capte un mot sur deux, et parfois elle me dit, mais je comprends pas ce mot, est-ce que tu peux me l'expliquer? J'ai rien compris.
Alors que quand il y a la personne à côté qui traduit en langue des signes, pour elle, c'est clair.
Ah bah, beaucoup plus clair, bien sûr, c'est limpide.
Ça les relie au monde, ça.
Ça les relie au monde.
Merci beaucoup, Marina
Al-Rubaï.
Je rappelle le titre de votre livre, Il était une voix, aux éditions Mazarine.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.